Sixième instruction.
La croix peut paraître un peu insolite, inhabituelle, et en même temps, je découvre, ce matin même en y réfléchissant, en même temps, je prends conscience avec une certaine satisfaction, en tous les cas une certaine sécurité, que c'est absolument, enfin que j'invente rigoureusement rien du tout, que c'est absolument présent dans l'Église depuis toujours. Alors ce qu'il y a d'original, c'est l'idée, c'est l'effort de faire passer au niveau un peu théologique, au niveau un peu d'une doctrine métaphysique, objective, quelque chose qui a toujours été présent dans l'Église, selon un mode qu'on a admis implicitement et à tort affectif et populaire. Voyez-vous, sur la croix, les théologiens, finalement, n'ont pas dit grand-chose d'autre, tout au moins les théologiens latins. Je ne parle pas de la théologie grecque qui, sur ce point, est beaucoup plus proche de ce que j'essaie de dire que la théologie latine. Mais la théologie latine n'a pas dit grand-chose d'autre que ceci. Il fallait qu'une dette soit payée, une satisfaction soit apportée pour que le péché originel et les péchés personnels des hommes soient rachetés, pour que la justice de Dieu soit apaisée. Il fallait qu'une satisfaction convenable soit offerte de la part des hommes à Dieu. Et l'offense ayant une portée infinie dans sa gravité, il fallait que cette satisfaction ait également une portée infinie dans sa valeur. Mais les mêmes théologiens latins, tout au moins, qui ont précisé ces choses, ont toujours dit que la personne du Christ, donnant à tous ses actes humains, quels qu'ils soient, une valeur infinie, le Christ aurait pu satisfaire en toute rigueur à la justice divine par un simple sourire. Alors, ça, c'est voilà tout ce que la théologie a dit en fin de compte du mystère de la croix. En ajoutant que, ben, il lui a plu, mais on ne sait pas pourquoi, parce que c'est la sagesse divine et qu'on ne peut pas scruter les profondeurs de la sagesse divine et que nous n'avons pas à le faire. Il lui a plu de nous sauver dans un luxe de souffrance et dans un mystère de mort qui défie l'investigation humaine et l'investigation théologique en particulier, mais et que, évidemment, la justice telle que nous pouvons la comprendre n'exigeait pas. Voilà tout ce qu'ont dit les théologiens. Et par conséquent, on pourrait s'en tenir là. On pourrait s'en tenir là et dire, bon, on va pas faire le malin. On va pas essayer de comprendre mieux que nos forces humaines ne le peuvent, quelque chose qui relève précisément des décrets insondables de la sagesse divine. Oui, on pourrait se contenter, et on devrait en rester là, si on ne constatait pas que, alors, à un tout autre niveau, qui est celui de la prédication populaire, de l'affectivité et de la vie mystique, l'Église elle-même n'en est jamais restée là. Alors, vous comprenez, moi je prends acte de ce fait, et je me dis, bien, il faudrait même savoir pourquoi au point de vue théologique. Car l'Église n'a pas cessé, pendant 2000 ans, et ça a commencé même dans l'Écriture, parce qu'on dit que la dévotion à la croix date du XIIIe siècle, je marche pas, c'est dans saint Paul. Il n'a pas épargné son propre fils, et la description des souffrances du Christ existe dans l'Évangile, et videbum in quem transfixerunt, ils regardons celui qu'ils ont transpercé, c'est tout de même aussi dans l'Évangile. Enfin, il y a tout de même des quantités de choses qui sont destinées dans l'Évangile à nous dire, voyez tout ce qu'il a fait pour nous, tout de même, enfin. C'est dans la tradition de l'Église, et on dit que le chemin de croix remonte au tout premier temps de la vie des premiers chrétiens, qui ont refait d'instinct les différentes stations de ce chemin de croix, qui à ce moment-là n'était pas un chemin de croix figuré par des petites croix comme ça, hein, comme vous en avez ici, mais qui étaient vraiment les lieux mêmes de la passion auxquels on pouvait se rendre. Donc, depuis toujours, l'Église a contemplé la passion. Ça, elle a contemplé aussi le Christ ressuscité, les deux, bien entendu, mais depuis toujours, elle a médité sur la folie de la croix, selon la parole même de Paul. Les Grecs demandent la sagesse, les Juifs veulent des miracles, mais nous, nous prêchons Jésus-Christ est crucifié. Ah, c'est clair. Et alors, l'Église a donc toujours puisé un enseignement affectif d'une importance considérable, puisque c'est ça qui fait les saints quand même, de la contemplation du crucifié. Alors cet enseignement est extrêmement difficile à préciser, puisque encore une fois, de son dit oui, il a payé tout ça pour nous, c'est vrai, mais il aurait pu payer moins cher. Par conséquent, pourquoi ce luxe? Pourquoi ce surcroît? Pourquoi ce surplus? Eh bien, on n'en sait rien techniquement, mais affectivement, on sent. On sent que ça signifie quelque chose. Voilà, ça signifie quelque chose. Alors, ma folie personnelle de théologien, c'est d'essayer de définir d'une manière un peu technique, un peu métaphysique, un peu ontologique, un peu etc., bien, ce que ça signifie. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, je n'invente rien, parce que je ne fais rien d'autre que dire d'une manière pas amusante, je veux dire pas touchante, pas lyrique, ce que depuis 2000 ans, tous les prédicateurs et tous les saints disent d'une manière beaucoup plus chaude, beaucoup plus éloquente, beaucoup plus intense, et que j'ai moi-même reçu et que j'ai moi-même écouté dans la bouche des saints et dans la bouche des prédicateurs. On m'a prêché la croix à l'âge de 8 ans, dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là qu'on me l'a présenté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas forgé ça de ma propre mentalité. Alors, il se trouve qu'avec un instinct métaphysique qui peut paraître oiseux, mais qui me paraît tout de même un peu moins oiseux à une époque où précisément on propose au niveau de la prédication, alors justement, au niveau de la prédication, au niveau de l'enseignement populaire, on propose autre chose. Et au nom d'arguments métaphysiques et théologiques, alors, j'ai envie de défendre à ce niveau même ce qui fut toujours l'instinct de l'Église, à savoir la contemplation du Christ crucifié et ressuscité, mais crucifié. Alors, les résultats de mon effort sont, passez-moi une expression, très éloquente alors. À mes propres yeux, les résultats de mes efforts sont c'est pas fameux, c'est pas fameux, enfin c'est douloureusement insuffisant, quoi, enfin, ça, je m'en rends bien compte. Mais c'est en y réfléchissant ce matin à votre sujet et en me préparant à revenir à l'attaque sur ces mystères que je me suis dit, mais au fond, à quoi bon, non pas dans un sens sceptique, mais dans un sens de critique. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi dire des choses qui, en effet, paraissent très vite inaccoutumées, alors que j'ai pas du tout le sentiment de dire des choses neuves. Vous voyez? Et voilà pourquoi. C'est de défendre un certain instinct, une certaine contemplation de l'Église qui n'a jamais éprouvé le besoin de se définir, parce qu'elle est particulièrement difficile à définir, parce qu'elle se situe précisément au niveau de telle profondeur de la sagesse de Dieu que c'est désespérant pour l'intelligence humaine de le saisir, alors que le cœur humain, soulevé par la grâce, bien entendu, est tout à fait à l'aise avec ça. Ce que je me suis permis de dire dans le combat de Jacob, que ces choses-là mettent le cœur en repos et l'intelligence en détresse. Vous voyez ? Eh bien, tant pis, justement, cette intelligence du XXe siècle qui refuse d'être en détresse face à la prédication évangélique, a besoin qu'on l'y remette. Et alors, si on n'écoute pas, tant pis, moi, c'est plus mon problème. Mon problème, c'est au moins que, selon les forces que Dieu m'a données, cette intelligence ait de quoi comprendre qu'il est très grave de se détourner de cette contemplation du Christ crucifié. Au moins ça. De quoi comprendre qu'il y a là une petite fente, une petite lucarne ouverte sur l'infini de Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre qui aille aussi loin, qui aille aussi profond par les entrailles de notre propre miséricorde. C'est l'Esprit de Dieu qui scrute les profondeurs de Dieu et qui est diffusé dans nos cœurs pour nous aider à sentir que, à la place de Dieu, en somme, nous en aurions fait autant. Et voilà, voilà ce que le Saint-Esprit nous fait comprendre. Ben, il ne nous le fait pas comprendre à coup d'arguments concernant la justice, puisque la justice ne nous dit pas du tout qu'il fallait en faire autant. Donc, il nous fait comprendre autre chose. Alors, j'essaie de dire quoi ? Et la première notion à laquelle je me suis arrêté comme me paraissant dépasser la notion de justice à propos de la croix, c'est la notion de victoire sur le mal. Bon, alors ça, c'est encore relativement facile à expliquer. Faut pas exagérer, parce que les premières fois que j'ai essayé de dégager cette notion de victoire du Christ sur les ténèbres, je me rappelle, c'était au Carmel de Nancy à peu près, une certaine instruction qui était la 8e, vous voyez que je vois à peu près, c'est la première fois que j'ai essayé d'affronter cette notion-là, ben j'ai eu l'impression d'aller aussi loin que possible dans ce que ma pauvre intelligence peut, face à ces choses que le cœur devine, soulevé par la grâce, plus que l'intelligence ne les voit. Et cependant, cette notion de victoire, je suis obligé de vous dire aujourd'hui que, à son tour, elle me paraît pouvoir et devoir être dépassée par une notion plus profonde encore que j'ai évoquée, à savoir la splendeur, ce que j'ai appelé hier soir, la splendeur inaccessible du visage miséricordieux de Dieu. Alors, voyons d'abord la notion de victoire, c'est quand même plus facile, ça. Ça ne me suffit pas, ça ne me suffit plus. J'ai encore envie d'aller plus loin, et ça, c'est une manie inguérissable. La notion de victoire, qui ne me suffit plus, je voulais trop rapidement signaler hier soir, et le Christ réfracte dans son cœur de chair quelque chose de la victoire de Dieu sur le mystère des ténèbres. Bien. Cette victoire de Dieu comporte trois aspects, trois niveaux de profondeur auxquels nous avons beaucoup de mal à accéder, surtout le dernier. Le premier, la première victoire de Dieu sur le mystère des ténèbres, ce serait que les ténèbres n'existent pas. Et déjà, nous avons beaucoup de mal à encaisser ça. Et le cœur du Christ réfracte cette victoire de Dieu en acceptant, lui, que les ténèbres existent. Et ça ne l'empêchera pas d'être victorieux de ces ténèbres au matin de Pâques et d'être virtuellement victorieux dès le début, parce que précisément, il accepte que la victoire de Dieu soit beaucoup plus profonde que celle que nous souhaiterions, nous, en souhaitant que les ténèbres n'existent pas. Ce serait évidemment beaucoup plus simple. Mais je vous ai dit que si Dieu cédait à cette tentation simplificatrice, eh bien, non seulement les ténèbres n'existeraient pas, mais nous n'existerions pas non plus. Parce qu'alors là, ce serait ce genre de victoire consistant à ce que le mal n'existe pas, ne s'accomplirait en toute perfection. Ou plutôt, si Dieu cédait à cette logique très courte, selon laquelle nous voudrions que le mal n'existait pas, lui, il ne s'arrêterait pas en si bonne route, et la créature elle-même n'existerait pas, parce que ce serait encore mieux. Donc il y a là une logique qui nous échappe déjà, du fait que la créature existe, et cette logique, incompréhensible, se traduit entre autres par le fait que les ténèbres aussi existent, que le mal existe, que Dieu permet le péché. Voilà. Alors, on s'en tient en général, quand on dit ça, en théologie grecque en particulier, au respect de la liberté de la créature, et alors là, je m'y tiens, moi aussi, Dieu permet le mal parce qu'il veut respecter la liberté de la créature, il reste tout de même qu'il aurait pu ne pas créer du tout de liberté faillible. N'est-ce pas? Ça, là, il est quand même responsable. Je regrette. Le mauvais usage de la liberté, nous en sommes responsables. Nous en sommes la cause première, et Dieu en a couru le risque. Mais justement, pourquoi en a-t-il couru le risque? Pourquoi donner l'existence à des libertés faillibles? Alors ça, je n'en sais rien, c'est là où ça appartient à cette logique incompréhensible de Dieu qui a préféré courir le risque d'une liberté faillible que de rester dans la perfection, je ne dis pas de sa solitude, parce que c'est justement pas une solitude, ils ont quoi, hein, mais de sa béatitude ingrée. Ben, c'est comme ça. Première folie. Et qui n'empêche pas la victoire. Deuxième folie qui n'empêche pas la victoire, ne pas se venger. Dieu ne se venge pas. Là, voyez, au fond, la première folie répond à une idée trop courte de la sagesse. La deuxième folie s'oppose à une idée trop courte de la justice. La justice de Dieu n'éprouve pas le besoin de punir. Ça, j'en suis profondément convaincu. La justice de Dieu s'incline, si j'ose dire, devant la vérité du péché. Et la vérité du péché, qui est corollaire de la vérité de la liberté, c'est que justement, si Dieu respecte la liberté de péché, il se doit à lui-même d'aller jusqu'au bout de ce respect. Donc, d'accepter, sinon ce serait une plaisanterie, ce serait pour rire, ce serait pas sérieux, d'accepter que ce refus de l'amour puisse être éternel. Et ça n'est pas une vengeance de Dieu, c'est un respect de Dieu à l'égard de la liberté créée. Nous sommes toujours dans la logique de cette folie, vous voyez, qui permet la catastrophe, mais qui ne la permet pas à moitié, qui va jusqu'au bout, je dirais implacablement, de son innocence en face du péché, et de son respect de la liberté des autres. On se plaint beaucoup que les autorités divine ou pas, ne respecte pas la liberté aujourd'hui, et on réclame des libertés démocratiques, eh bien, sur ce plan, Dieu est terriblement démocrate. Et la démocratie de Dieu, c'est la permission de l'enfer. Comme dit Lewis, admirablement, il y a ceux qui diront éternellement à Dieu que ta volonté soit faite, et il y a ceux à qui Dieu dira éternellement que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que ton refus de moi s'accomplisse. Je suis démocrate. Je ne te forcerai pas la main. Seulement Dieu n'y peut rien, si j'ose dire. Il y peut quelque chose, mais il ne peut pas éviter que le péché ne soit à lui-même son propre châtiment. Et que ce châtiment soit terrible. Et éternellement terrible comme le péché. Ça, c'est l'enfer. Mais ça n'est pas une vengeance. C'est une justice. C'est pas une vengeance. Bon. Par conséquent, Dieu n'éprouve pas du tout le besoin de se venger, ni de punir, et ça se traduit de la part du Christ par le fait qu'il n'éprouve pas le besoin de se défendre, qu'il refuse de se défendre. Il refuse de se défendre parce qu'il imite Dieu. Parce qu'il réagit comme Dieu face à la révolte des hommes. Et c'est pourquoi il refuse de se défendre, et même il refuse de fuir, car il pourrait fuir, mais ce ne serait pas agir comme Dieu. Dieu ne fuit pas, et Dieu ne se défend pas. À la transfiguration, il aurait pu fuir, il n'a pas fui. Et au moment de l'histoire de Judas et de Caïphe, il aurait pu fuir humainement, et il n'a pas fui. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la dépose, personne ne me la prend. Il n'a pas fui et il ne s'est pas battu. Ce qui a d'ailleurs provoqué la trahison des apôtres. C'est ça qui a provoqué la trahison des apôtres, il faut bien comprendre. C'est pas du tout comme l'imagine ce pauvre Peggy, que j'aime beaucoup par ailleurs d'ailleurs, qui est un grand poète et un grand chrétien, mais qui là-dessus il n'a pas compris, quand il prête à Jeanne d'Arc une révolte, ou alors il a trop bien compris les pauvres sentiments humains face à ces choses, quand il prête à Jeanne d'Arc une révolte contre le fait que les apôtres aient laissé faire ça. Mais non, ils ne voulaient pas laisser faire ça. Ils étaient vraiment prêts à faire le coup de feu ou à tirer l'épée pour et à donner leur vie pour éviter ça. C'est le Christ qui a laissé faire ça. Et c'est là-dessus qu'ils l'ont abandonné. Parce qu'ils ne pouvaient pas le suivre dans cette folie de ne pas se défendre. C'est ça qu'ils n'ont pas accepté. C'est là où Satan a pu les cribler comme le froment et leur semer un doute au sujet de Jésus-Christ parce qu'ils ne se défendaient pas. Parce qu'on n'a pas idée d'agir comme ça. Et de laisser tomber des hommes prêts à donner leur vie pour le défendre, de les désarmer lui-même, en leur disant, j'ai pas besoin de vous, mon père enverrait 12 légions d'anges s'il était question de me défendre, mais il n'en est pas question. Alors c'est là qu'ils ont dit, bon. Là, ils ont été visités par la tentation, par le trouble et par le doute. Mais alors, le troisième niveau de cette folie incompréhensible par laquelle Dieu triomphe du mal, c'est que au moins nous imaginons, et combien de théologiens se sont imaginés, et ces théologiens-là sont dangereux, même s'ils sont très orthodoxes, parce que justement il y a un léger décalage entre ce qu'ils disent, qui est parfaitement orthodoxe au point de vue matériel, de la matérialité des dogmes, et ce que chante l'Église dans sa prédication, ce qu'elle sent affectivement, là, il y a un décalage. Et c'est ce décalage qu'exprime très bien Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle, justement, souffre de certaines choses qu'on disait de Dieu, et en disant, moi je sens que Dieu n'est pas comme ça. Et alors ça, vous comprenez, il n'y a pas de dogme pour empêcher, pour réagir contre ça. Là, qu'est-ce que vous voulez, c'est une affaire de sixième sens, n'est-ce pas? On sent ou on sent pas. Hein. Avec de la très bonne théologie, on peut, ce que je disais encore dans le combat de Jacob, massacrer la vérité divine comme des hippopotames massacrent un magasin de porcelaine. Qu'est-ce que vous voulez, ça... Je suis pour l'orthodoxie, je crois vous l'avoir dit assez violemment hier, peut-être trop, mais il y a un au-delà de l'orthodoxie qui ne touche pas à l'orthodoxie, mais qui ne peut pas être donné par l'orthodoxie elle-même, pure et simple, matérielle. Les dogmes ne suffisent pas, il faut quand même qu'il y ait les nerfs. Il faut qu'il y ait le recta sapere, et non pas seulement le recta docere. Alors ça, évidemment, cette finesse-là, eh bien, consiste justement à ne pas s'imaginer Dieu comme à l'abri. Se mettant à l'abri, ou étant à l'abri même, par sa transcendance même, des coups que lui porte le mal. Et ici, nous revenons à ce que je vous ai dit au début. Comprendre que Dieu est bouleversé dans ses entrailles par le spectacle de la misère des pécheurs et de ce châtiment immanent que comporte le péché, et que Dieu est obligé d'accepter parce que c'est juste d'une part et parce qu'il respecte la liberté de l'autre et que ça ne fait qu'un. Mais comprendre que Dieu ne fait pas ça de gaieté de cœur, qu'il en est plus bouleversé que le pécheur lui-même, et que s'il transmet à un homme son bouleversement, cet homme en mourra sans même qu'il ait besoin des clous. Il en mourra d'agonie. Ça, alors là, évidemment, comprendre ça, il ne suffit pas de faire de la théologie dogmatique, faut être aux écoutes des intuitions féminines de l'Église. Et par ailleurs, je ne me contente pas de le prêcher sur un mode lyrique, j'éprouve le besoin de l'enraciner dans la solidité tout de même d'une certaine métaphysique. C'est pas très drôle, je vous l'ai dit, et je m'en excuse. Alors, tout ça est réciproque, c'est-à-dire que la passion du Christ ne prend tout son sens que si on lit derrière cette passion une certaine métaphysique, mais d'autre part cette métaphysique est absolument inaccessible par une autre voie que celle de la contemplation du Christ crucifié et de son agonie. Et la signification de cette agonie me paraît être ceci, c'est que si Dieu injecte sa miséricorde à un cœur de chair, face à des pécheurs dont ils respectent la liberté au point qu'ils aillent jusqu'aux extrémités auxquelles les hommes s'abandonnent depuis Caïn, j'y reviendrai. Car Caïn est une étape décisive, il n'y a pas seulement que nos premiers parents. Mais depuis Caïn, c'est-à-dire le premier meurtre, eh bien, l'histoire humaine est une histoire de sang et de larmes. Bon, eh bien, face à cela, si Dieu injecte quelque chose de sa miséricorde à un cœur de chair, il n'y a pas besoin de clous, il n'y a pas besoin de la croix, il n'y a pas besoin de bourreau, il en meurt sur place. D'agonie. Et par conséquent, dans cette perspective, la croix n'est que la projection spectaculaire à l'usage de notre grossièreté, justement, et pour éduquer notre grossièreté du mystère de l'agonie. Là, ça me paraît extrêmement net, car dans cette histoire de la croix, à tout instant, il aurait suffi d'un grain de sable pour que ça n'ait pas lieu. Et ça, c'est toujours le réflexe de Peggy, disant, il n'aurait pas fallu laisser faire ça, ou le réflexe de Clovis, hein, si mes soldats avaient été là, ça ne serait pas passé comme ça. Eh bien, Clovis et la Jeanne d'Arc de Peggy auraient pu éviter la croix, ils n'auraient pas pu éviter l'agonie. Ou alors, ben, il aurait fallu que Dieu renonce à injecter sa miséricorde au cœur du Christ. Voilà ce que signifie l'attitude du Christ pendant la croix. Et l'attitude de la providence divine permettant et même refusant que tout ce qui aurait pu sauver Jésus-Christ le sauve. Parce que ça ne signifie rien. Il aurait fallu pour ça que le Christ ne soit pas malade. Le Christ n'était pas malade, ça c'est traditionnel, il était à l'abri de toutes les maladies, sauf une, la miséricorde. Il était malade de miséricorde. Il était atteint de cette maladie morte. Et l'histoire de la croix n'est que, je vous répète, une projection grossière et spectaculaire de cette maladie mortelle et secrète que le Christ portait dans lui. Pourquoi alors une projection grossière et secrète de la part d'un Dieu qui est plutôt discret, secret et silencieux? Ben, tout simplement parce que non seulement Dieu a voulu injecter sa miséricorde à Jésus-Christ et qu'il en meurt, mais c'est qu'il veut l'injecter aux chrétiens et qu'ils en meurent aussi. Il veut que les chrétiens, à la suite de Jésus-Christ, et comme l'a dit admirablement Thérèse de l'Enfant Jésus, apprennent à manger à la fois à la table du pain des anges, de l'Eucharistie, et à la table des pécheurs, et qu'ils en meurent. Il veut que nous achevions dans notre corps et dans notre cœur ce qui manque à cette maladie de la miséricorde que Jésus-Christ a connue, ce qui lui manque en splendeur et en folie, pas en satisfaction et en justice, de ce côté-là c'est bien réglé, tout à fait d'accord, mais ce point de vue-là est court, tout en étant indiscutable et nécessaire. Mais il est évident que de ce point de vue de la justice, premièrement, je vous le répète, il n'était pas nécessaire que Jésus-Christ souffre tant et qu'il meure, et deuxièmement, il était encore bien moins nécessaire que nous prolongions cette passion. Autant en profiter, ça aurait été plus simple. C'est ce que nous sommes tentés de dire. Puisqu'on est sauvés, je me rappelle très bien, je vous le disais ça aussi à 8 ans, on disait, ben ça y est, il a tout payé, ça va, c'est fini, c'est tranquille, on est tranquille. Vous voyez, c'est notre réflexe, ben ça va, on est libéré. Maintenant, il n'y a plus besoin de souffrir. Et c'est vrai, il n'y a pas besoin de souffrir au point de vue de la justice, non, c'est vrai, au point de vue de la justice, il n'y a pas besoin de souffrir. Et vous me direz, mais bien que nous ayons péché, j'irai très loin, je dirais bien que nous ayons péché. Avec la foi, nous jetons nos péchés dans le cœur du Christ, nous savons, nous croyons qu'il a payé toute dette, c'est ce que font les protestants, ils ont raison, mais ça ne les empêche pas de mourir. Et ils ne comprennent pas très bien pourquoi, au fond, et nous-mêmes non plus, si nous n'entrons pas dans cette logique dont je vous parle. Et cette logique consiste à dire, ben c'est vrai, tu peux mourir d'assomption. Maintenant, tu peux mourir d'assomption. J'ai tout payé. Mais pour mourir d'assomption, il faut mourir d'amour. Ben, bien sûr, Seigneur. Alors, je vais t'injecter de l'amour. Ben, oui, Seigneur. Bon, seulement, attention, il se trouve que mon amour, c'est le mien. Oui, oui, c'est le vôtre. Eh oui, mais le mien est miséricordieux. Il est malade de miséricorde. Alors, attention. Si je t'injecte vraiment miséricordieux, tu vas à ton tour être malade. Et tu vas avoir envie, toi-même, d'achever dans ton cœur et dans ton corps ce qui manque en splendeur, et en folie, et en beauté, et en luxe, et en surabondance à la passion de Jésus-Christ. Alors tu n'en sortiras pas. Moi je ne demande pas mieux que tu ne souffres pas, mais c'est toi qui ne vas pas marcher. Car si Dieu nous donnait quelque chose de l'amour des anges, ben nous serions comme les anges qui ont envie de souffrir et qui nous envient de souffrir. Seulement comme nous, notre envie peut être efficace, ou plutôt efficace ou non, comme nous sommes dans une condition à souffrir, simplement cet amour, une fois qu'il nous est injecté, nous réconcilie avec la situation. Et nous fait dire, ah oui, eh bien tout ça, évidemment, ce sont des jeux de prince, ce sont des jeux de Dieu dans mon cœur. Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite, parce qu'en effet, ou bien je ne t'aime pas et je suis fichu, ou bien je t'aime et je suis fichu. Simplement de deux façons différentes. Mais de toute façon, je suis fichu. Je suis obligé de souffrir. Si je ne t'aime pas, parce que je ne t'aime pas, et si je t'aime, parce que je vais me mettre à aimer les pécheurs. Et alors ça, c'est déjà la croix. Voilà. Alors, comme toujours, à chaque fois que je vous fais une instruction, je ne sais pas dire pas pourquoi, enfin pas très bien à quoi ça tient, c'est que, au fond, elle se termine un petit peu avant l'heure, et que je suis obligé d'amorcer la suivante, mais après tout, c'est pas un mal. Il me reste d'ailleurs peu de temps, mais il faut que je le fasse pour alors vous expliquer un peu plus dans le détail le comment alors de cette affaire. Enfin, le sens profond, je vous l'ai expliqué tant bien que mal. Encore que la notion de victoire ne me suffise plus tout à fait, je m'en tiendrai là, si vous permettez, avec vous, pour le moment. Mais pour entrer un peu plus dans le détail de cette permission du péché, de cette introduction de la mort dans le monde par le péché, de cette introduction d'un certain pouvoir de Satan et du démon dans le monde toujours par le péché, de ce règne, de cet empire de la mort que possède Satan depuis ce temps-là sur tout l'univers, et par conséquent de cette double mort dont Jésus-Christ est mort. Il est mort de mort, comme tout le monde, du moins en apparence. En apparence, il est mort de mort. Il est mort crucifié. Secrètement, je vous l'ai dit, il est mort d'agonie. Par conséquent, secrètement, il est mort de miséricorde. C'est ça qui est plus profond que de dire même qu'il est mort des deux morts. Car en disant qu'il est mort de miséricorde, je dis qu'il a participé, de par la miséricorde, à la mort dont le diable a l'empire, et qui nous fait peur, et à juste titre, mais en même temps, car la miséricorde c'est tout de même pas les ténèbres, c'est la souffrance de Dieu en face des ténèbres, c'est pas pareil. En même temps, donc, qu'il a goûté plus que les pécheurs eux-mêmes, puisqu'il a goûté à la manière de la miséricorde divine les ténèbres dans lesquelles se plongent les pécheurs, puisqu'il a goûté la mort dont le démon est l'artisan plus profondément que les pécheurs eux-mêmes, car il a goûté cette mort à la manière dont Dieu la goûte dans sa miséricorde, voilà ce que je veux dire. En même temps, évidemment, il est mort de gloire, puisque la miséricorde, c'est tout de même l'aspect le plus mystérieux de la gloire. Donc, dire qu'il est mort de miséricorde, c'est dire qu'il est mort à la fois de cette mort des pécheurs, mais plus cruellement connue que par les pécheurs eux-mêmes, à savoir par la miséricorde, et qu'il est mort de gloire. Ce qui semble être aux antipodes de la mort de mort, à laquelle nous sommes condamnés depuis la chute originelle. Alors, ça fait tout de même quelque chose d'assez complexe, comme vous vous en doutez, et que je ne peux pas vous expliquer à loisir, il faudrait des semaines pour en parler à fond. Il faut donc que nous quittions un moment Jésus-Christ pour envisager d'abord qu'est-ce que c'est que la mort de gloire en général. Qu'est-ce que c'est que mourir de gloire, indépendamment du péché. Et pour voir comment c'est à propos de cette mort de gloire que le péché est entré dans le monde. Car tout de même, c'est la créature libre qui est responsable du péché. Il faut donc nous demander, pas seulement pourquoi Dieu a permis le péché, je viens à peu près de le dire autant qu'on peut le dire, mais comment il a permis le péché, quel péché il a permis, comment il a, quelle épreuve a été offerte aux anges et aux hommes à la suite de laquelle ils ont péché, car initialement ils ont été créés bons, étant donné que Dieu est responsable de tout ce qu'ils étaient initialement, ça ne pouvait être que bon. Alors, comment ont-ils dérapé? Eh bien, ils ont dérapé à propos de la mort de gloire, laquelle ne comporte pas de ténèbres, d'oppression, de péché, de miséricorde, ni d'agonie. La mort de gloire, c'est une pure splendeur, mais c'est tout de même une mort. Et c'est tout de même une épreuve, et une drôle d'épreuve. Et finalement, malgré les apparences, nous ne courons pas d'autre danger que celui de ne pas accepter la mort de gloire. Apparemment, nous risquons de refuser la croix. En réalité, nous risquons toujours de refuser la gloire. C'est uniquement ça. C'est notre seul risque. Nos premiers parents, Dieu ne leur a pas demandé de porter la croix. Il leur a demandé de mourir de gloire, de se laisser emporter par la gloire. Mais ils n'ont pas su le faire. Eh bien nous, si nous savons accepter d'être emportés par la gloire, nous accepterons la croix. Selon ce que je vous ai dit tout de suite. Enfin, si nous nous laissons emporter par la gloire, nous serons emportés par l'amour. Nous serons emportés par la gloire de la miséricorde. Nous serons miséricordieux. Et par conséquent, nous accepterons la croix. Et c'est la seule manière d'accepter la croix, c'est de se laisser emporter par la gloire. Et c'est le seul risque de ne pas accepter la croix, c'est de refuser la gloire, comme nos premiers parents. Mais pourquoi est-ce que nous risquons de refuser la gloire? Là, je voudrais modifier nos petites idées là-dessus. Nous sommes toujours tentés de penser que c'est à cause de la croix que nous risquons de refuser la gloire, alors que c'est à cause de la gloire que nous risquons de refuser la croix. Pourquoi? Parce que la gloire, c'est une drôle d'affaire. C'est quelque chose de tout à fait fantastique, et à propos duquel, en effet, la timidité de Dieu face à notre liberté est redoutable. Alors je vous expliquerai ce soir donc comment l'entrée dans la gloire constitue une épreuve, et comment la liberté humaine a échoué une première fois devant cette épreuve. Comment, à la suite de cet échec, les conditions de l'épreuve ont été modifiées, mais l'épreuve a été maintenue. Et comment, à la suite de cette seconde épreuve ainsi, de cette épreuve ainsi modifiée, il y a eu un second péché, le péché de Caïn, qui a compliqué encore les affaires. Et qui a entraîné une situation pour l'homme encore plus misérable, face à laquelle les entrailles de la miséricorde de Dieu ont été encore plus sensibles, au point d'offrir justement à son fils bien-aimé de partager dans un cœur de chair quelque chose de ce qu'il éprouve dans son éternité, face à cette misère insondable entraînée par le péché. Il faudra que nous regardions comment.